Blog Talk Radio.
Bonjour à tous, vous écoutez le dernier en date des épisodes de La vie au-delà des opposés que je vous présente depuis l'Angleterre, depuis la région du Cambridgeshire, depuis Ely près de Cambridge et que Barbara vous présente depuis sa vallée dans les montagneuses Cévennes dans le sud de la France. Bonjour Barbara.
Bonjour Marc et bonjour tout le monde.
Eh bien, en parlant des Cévennes, on va continuer. On vous avait parlé un peu de la cérémonie du solstice d'été que Barbara a pratiquée la semaine dernière avec son mari, Harold. Et donc, on avait eu pour la première fois Harold en direct dans notre émission pour nous expliquer comment lui avait vécu cette expérience de la confection de l'élixir du solstice, qui est une tradition qu'ils ont créée tous les deux hein, et à laquelle ils sacrifient, si je puis dire, bien que ce ne soit pas un sacrifice, ce n'est pas vraiment un sacrifice. C'est plutôt une célébration, donc c'est une tradition qu'ils célèbrent tous les ans. Donc il nous avait expliqué comment il y avait vécu ça, mais en fait il ne nous a pas tout dit la semaine passée. Il ne nous a pas tout dit parce que le temps lui manquait, en fait, parce que notre programme était assez bien rempli la semaine dernière, puisqu'on voulait aussi parler des subpersonnalités, et puis de la situation actuelle en Grèce, et du lien, la perspective mystique concernant la situation en Grèce, et le lien, justement, avec le travail sur les subpersonnalités. Donc, il a trouvé qu'il était un petit peu à court de temps, et il s'était un petit peu dépêché pour partager son expérience avec nous. Et donc, après l'émission, il a pris le temps de coucher le reste par écrit, comme on dit en français. Et Barbara, tu as son témoignage écrit devant toi, je crois, hein, où il explique ce qu'il ne nous a pas dit la semaine passée.
Oui, parce que en fait, aujourd'hui, pendant 3 jours d'ailleurs, il suit une formation pour construire et reconstruire les faïsses, les ostanques. Ça veut dire en Cévenol, c'est terrasses en pierre sèche.
Oui, j'avais encore jamais entendu ces noms-là.
Ah bon, il a, je parle de... Non, mais je veux dire, il faut quand même qu'il y ait de la pente pour avoir besoin de créer des terrasses. Mmh. Et toutes ces terrasses ont été faites par les anciens, aussi pour leur chemin de muletier et autres, pour les tenir. Mmh. Et c'est en pierre sèche et c'est un art. Cet art se fait en Angleterre aussi, on le trouve beaucoup dans le Yorkshire, dans le Lake District aussi. Mais ce n'est pas... Et puis les pierres dans les Cévennes, ça change d'un endroit à l'autre. On trouve en Provence aussi. Et puis dans la partie où c'est schiste. Alors qu'ici c'est volcanique et granitueux. Et voilà, donc il a fait ça pendant 3 jours et c'est un stage gratuit en plus. C'est pour que les gens apprennent à récupérer, à réinstaller le patrimoine régional.
Oui.
C'est très intéressant. Donc il n'est pas là aujourd'hui. Mm. Oui, donc en fait, oui, pendant le solstice et les équinoxes, on fait chaque fois, là c'est moi qui dit juste un peu, on crée une essence comme dans les fleurs de Bach. Hein?
Oui.
Et chaque fois, on met un peu, on a choisi un certain nombre de gouttes, de l'essence d'avant. Ça fait que les saisons spirales et spirales, et chaque saison se donne un peu de lui-même à la nouvelle essence, mais la nouvelle essence est toujours aussi tout neuf, hein? On reste pas dans la répétition. Ok, alors donc Harold, il écrit à Marc surtout, il a dit que, il dit, quand j'ai parlé sur votre émission radio, j'ai omis la moitié de ce que j'aurais voulu dire parce que vous avez dit que vous aviez encore un besoin de parler de la situation en Grèce et ce n'est pas, ça se discute pas dans 5 minutes. Alors, il dit, nous faisons l'équinoxe et la solstice et cérémonie comme une partie, comme une contribution à aider l'équilibre de la nature en nous équilibrant nous-mêmes. Je le vois que nous sommes la nature, avec un N majuscule. Nos émotions sont le météo, avec un M majuscule. Et nos corps sont la terre. Les dommages faits, qui sont en train d'être faits à notre planète, ce sont des dommages qui sont faits à nous-mêmes. La guérison que nous faisons à nous-mêmes est la guérison que nous offrons à la planète et vice-versa. Relâcher des vieux schémas, le relâchement des vieux schémas que nous faisons pour nous-mêmes et le relâchement de ces vieux schémas que nous faisons pour notre planète, etc. Cheating, comment on dit to cheat?
Tricher.
Ah oui, mais si nous trichons avec nous-mêmes, et les uns avec les autres, comme la Grèce et les banques, c'est nous trichons à notre planète. Et nous trichons seulement parce que nous pensons qu'il n'y a pas de source, avec un S majuscule, depuis cette source que tout vient. Et comme nous ne le pensons pas, nous pensons que nous devons prendre les uns des autres. Elle dit, bon, c'est de la théorie. Si je savais exactement ce que c'est que la source. Alors, donc, il dit, peut-être que ça serait utile d'expliquer pourquoi nous faisons ces cérémonies. Parce que voilà, c'est lié à la guérison de soi-même et d'être une proxy pour la Terre,
Un représentant.
représentant pour la Terre. Voilà, c'est ce que notre parole nous a voulu dire. Et justement, nous avons fait une autre petite cérémonie là avec les fées. Pour le Saint-Jean, le soir avant le Saint-Jean, dans la tradition celte et anglaise. Mais souvent, ça se fait avec les enfants. Le soir avant, on leur met quelque chose à manger. Et bien sûr, ils le mangent que éthériquement. Mais déjà ça, c'est très physique pour les fées. Et c'est en ce moment-là, la Saint-Jean, c'est le 25, et donc le soir avant, c'est le mietté dans la tradition. Et ils peuvent venir jusque-là assez physiquement. Et justement, la tradition veut qu'il laisse une bénédiction ou un petit cadeau aussi. Ah. Alors, nous avons laissé notre essence qui était terminée. On avait emballé, enfin, emballé. C'est dans un bocal. Et on a mis des feuilles de mûrier autour et de raffia. Et il lui faudrait peut-être 3 jours justement pour devenir, pour s'habituer à lui-même, pour devenir ce qu'il est. Et donc, il était là à présider sur notre petite cérémonie avec les fées. Alors, on a pris du pain au levain chez notre boulangère, qu'on a coupé dans des mouillettes, et on a mis du miel qu'on a, dans lequel, du miel du pays, dans lequel on avait macéré des fleurs de sureau. Ça donne un goût pas possible, trop bon. Et on a mis un peu de ça sur chaque mouillette, sur une petite assiette en verre, et puis voilà, on a une méditation et on a joué la musique des fées de Joanne aussi, et puis on a laissé ça pour la nuit. Et on suppose que leur bénédiction, c'était sans doute pour la petite élixir, l'essence de la solstice qu'on a fait. Et puis voilà, donc le lendemain, bien sûr, c'est encore là, mais il y aurait pu, si on pouvait le mesurer, et on peut d'ailleurs le mesurer, on n'a pas fait parce qu'on le sent sans mesurer, mais il y aurait plus de taux vibratoire, ils auraient pris tout ce qu'il leur fallait. Voilà, donc c'est la suite.
Ok, merci. Merci à Harold pour avoir contribué, pour avoir apporté la contribution de ces réflexions additionnelles et merci à toi pour avoir traduit et pour nous avoir partagé l'expérience supplémentaire de la Saint-Jean.
Oui, je pense moi, que justement, bon, Harold, de temps en temps, je lui lis des choses d'Almine et il écoute parfois quelque chose que je mets pour lui, surtout la musique, mais certaines petites causeries et tout. Mais bon, il n'étudie pas. Il a l'habitude de puiser dedans, mais je trouve que ça va parfaitement bien avec. C'est tout à fait dans le même état d'esprit de ce que nous avons partagé depuis très longtemps dans l'enseignement d'Almine. Parce qu'elle aussi, bien sûr, elle tire ça de la vérité de la terre et de la nature. Donc, ça se recoupe.
Clairement, clairement. Alors notre sujet suivant, on continue aussi sur notre lancée de la semaine dernière. Oh là là, je m'entends, j'entends mon écho à travers tes haut-parleurs là.
À travers le mien?
Oui. Non, maintenant ça va, c'est fini. Bon.
Ah, c'est parce que je vais rebrancher.
Donc, je vais essayer de ne pas faire écho, justement, de ne pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. Notre sujet suivant, donc, ce sont les subpersonnalités. Et c'est un sujet sur lequel il existe une littérature et un travail de recherche assez abondant. Et c'est un sujet auquel Almine a consacré beaucoup d'attention aussi. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec la notion, ce qu'est une subpersonnalité, pour être très simple, on pourrait dire que c'est une voix intérieure, c'est un personnage intérieur qui parle à l'intérieur de nous et qui influence nos attitudes d'une manière ou d'une autre. Donc l'exemple le plus connu, je crois, le plus fameux, celui avec lequel tout le monde peut avoir une connexion assez facile, c'est l'enfant intérieur. Donc, je suppose que tout le monde a déjà entendu parler de l'enfant intérieur, qui est la partie de nous-mêmes qui a gardé l'innocence, la spontanéité de l'enfant, la capacité de l'enfant à vivre dans le présent et à être naturellement connecté à son être profond. La partie aussi qui aime jouer et qui apprend en jouant. et qui vit par le jeu. Les subpersonnalités, il y en a énormément, en fait. Peut-être que les premières recherches en psychologie moderne qui se sont penchées sur les subpersonnalités, je crois qu'on appelle ça l'analyse transactionnelle, où on parle de l'enfant, du parent, et je crois qu'ils en ont encore un troisième. Mais il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus des subpersonnalités. Certaines écoles, certaines approches en ont vraiment découvert une myriade. Et un de ceux avec qui vous avez sûrement été souvent confronté et dont on parle beaucoup dans la recherche moderne sur les subpersonnalités, c'est le critique intérieur. C'est cette voix qui juge constamment tout ce que vous pouvez voir, tous les gens que vous rencontrez, et surtout vous-même. C'est la voix qui vous critique constamment, qui critique tout ce que vous faites, qui critique tout ce que vous ressentez, qui vous censure. Y en a beaucoup, il y en a beaucoup, on peut leur donner des noms. En général, quand on travaille le dialogue intérieur, quand on travaille en guérison, en thérapie avec le dialogue intérieur, une partie du travail consiste à donner un nom à chacune de ces voix et à leur associer une image et à apprendre à reconnaître leur influence pour ne plus en être le jouet. Mais l'approche d'Almine est basée sur un nombre limité de subpersonnalités qui sont vraiment centrales, qui fonctionnent comme des archétypes majeurs dans la psyché humaine. Et quand vous travaillez sur ces archétypes majeurs, ma perception, c'est que vous atteignez par effet de diffusion, par ricochet, vous atteignez toutes les autres plus petites subpersonnalités qui, la manière dont je le comprends, sont des facettes, des expressions partielles, plus ou moins fonctionnelles, plus ou moins alignées, des grandes subpersonnalités. Plus vous êtes intégré, je dirais, plus vous êtes fonctionnel, moins ces petites voix, ces sub-sub-sub-sub-sub-personnalités agissent de manière indépendante. Plus elles apparaissent comme une simple expression d'une subpersonnalité majeure. Donc, quand Almine a commencé le travail sur les subpersonnalités, au départ, elle en identifiait quatre. Et chacune des quatre correspond à un des points cardinaux et aussi à un type spécifique de particules subatomiques, on pourrait dire subquantiques en fait. Aussi à un certain stade de développement. Hein, donc, je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais on va vous les présenter tout de suite pour ne pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, il y a l'enfant intérieur, bien sûr. Il y a le guerrier, le nourricier et le sage. Et ces subpersonnalités n'ont pas toujours existé apparemment en tant que telles. Donc, quand on lit les livres d'Almine, quand on écoute ses cours aussi, on entend parler d'un certain événement qui a pu se produire dans le passé ou peut-être dans le futur en fait, où il existait ou existera, mais je vais dire existait, une dynastie qui avait sa capitale, disons, dans le système solaire de la Lyre. Et la Terre faisait partie des mondes qui étaient régis par cette dynastie. Et il y a eu une attaque surprise disons, de cet empire, hein, appelons-le comme ça, ou de cette fédération, par une race guerrière. Et la planète capitale a été entièrement détruite, elle a explosé, et la Terre a été lourdement bombardée depuis l'espace. Et le traumatisme a été tellement intense, selon ce récit, que la psyché s'est fracturée. Il y a eu d'autres épisodes, en fait, hein. Il y a eu d'autres épisodes de traumatisme extrême, suite à de grands cataclysmes, qui ont produit cet effet de fracture dans la psyché. C'est quelque chose qui a aussi fait l'objet d'études, hein. La manière dont un traumatisme intense peut fracturer la personnalité en personnalité multiple, comme on appelle ça. Ça, c'est la forme la plus extrême, en fait, du phénomène des subpersonnalités. C'est le fractionnement de la personnalité en personnalités multiples qui s'exprime à tour de rôle. Il y a des cas cliniques qui ont été étudiés où ça prend des formes vraiment extrêmes, où d'un instant à l'autre, les gens peuvent changer complètement leur manière d'être, de sentir, de penser, et ils changent de nom, en fait, et ils ont des noms différents qui correspond à chacune de leurs personnalités multiples. C'est quelque chose aussi qui a été utilisé délibérément pour programmer les gens. On vous en a déjà parlé plusieurs fois, hein. On va pas entrer dans tous ces détails ici encore une fois. Mais le fait est que c'est une des raisons pour lesquelles il est tellement important de guérir les subpersonnalités, de les intégrer, de les équilibrer. Parce que si on accepte l'idée qu'elles trouvent leur origine dans une série de traumatismes à l'échelle collective, ça veut dire que tout ce qui peut contribuer à les réunifier est positif et quelque part nécessaire. Maintenant, le fait que on se soit retrouvé avec ces subpersonnalités, il y a toujours plusieurs aspects, hein, à tout ce qui existe. Donc on pourrait voir ça comme une forme de handicap, le résultat d'une scission. On peut aussi le voir comme une opportunité d'étudier plus profondément certains aspects de notre expression, de raffiner certains aspects de notre expression en se concentrant plus spécifiquement sur tel ou tel de ces aspects successivement. Donc, par exemple, approfondir l'expérience et l'expression du guerrier, c'est quelque chose qui nous permet de pratiquer l'art de la stratégie dans la vie quotidienne, de la tactique, hein, de prendre des décisions et de les mettre en œuvre de manière, comment dire ça, stratégique. J'ai pas vraiment d'autres mots. J'ai pas vraiment d'autres mots. Mais par exemple, pour quelqu'un qui a une activité commerciale, c'est très important d'avoir cet aspect du guerrier bien développé et aligné. Pas parce que le commerce est une guerre, mais parce que vous avez vraiment besoin de prendre des décisions au jour le jour. Parce que la bonne santé de votre activité, de votre commerce, en dépend. Donc, le but en fait des 4 webinaires que je vais donner au mois de juillet, et vous pouvez trouver les dates et la description des webinaires sur notre page Facebook La Sagesse d'Almine. Le but est d'apporter justement la guérison à chacune des 4, pas des 4 mais des 8 subpersonnalités, de les équilibrer et de préparer leur fusion. Je dis 8 parce que au fur et à mesure de son exploration et de ses recherches, Almine a découvert qu'il y avait 4 subpersonnalités supplémentaires. En fait, au départ, elle en a trouvé 3, puis elle en a trouvé une quatrième, donc un total de 8. Et ça, c'est lié à sa découverte de l'existence, de l'axe horizontal de l'existence, qui correspond à l'univers plus féminin, l'univers plus magnétique. Donc, les quatre supersonnalités de base, nourricier, enfant, guerrier, sage, sont celles qui correspondent aux quatre directions des quatre points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Vers le début des années 2000, je crois, si ma mémoire est bonne, Almin a découvert l'axe horizontal qui comprend la direction d'au-dessus, d'en dessous et de l'intérieur. Trois subpersonnalités supplémentaires qui étaient, si ma mémoire est bonne encore, bon, l'ordre chronologique, je n'en suis pas tout à fait sûr, hein. Je connais très bien ces quatre subpersonnalités supplémentaires. Dans quel ordre elle les a découvertes, je n'en suis pas sûr. Mais il y avait la femme sauvage, l'éclaireur et le bébé. Plus tard, Almin a découvert que, il manquait encore une direction et la subpersonnalité correspondante pour justement pouvoir équilibrer les deux axes entre eux et obtenir un modèle où le masculin et le féminin sont en équilibre et un modèle qui est générateur de stabilité et de ressources, c'est-à-dire un modèle qui ne consomme pas plus de ressources qu'il n'en produit, ce qui est la définition de l'entropie. Donc le modèle avec lequel on travaille maintenant, les quatre supersonnalités supplémentaires sont la femme sauvage, la femme sage, l'éclaireur et le bébé. Pourquoi est-ce qu'il est tellement important de les guérir? Parce que plus ils sont séparés les uns des autres, plus leur expression risque d'être dysfonctionnelle et plus il y a ces espèces de conflit entre chacune des subpersonnalités où chacune essaye de devenir dominante ou d'usurper la fonction des autres. Par exemple, si l'enfant intérieur essaye de jouer le rôle qui devrait normalement être celui du guerrier, parce que le guerrier est absent, c'est une recette pour la catastrophe, hein. Essayez de faire fonctionner votre commerce avec l'enfant intérieur, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa place dans une activité commerciale, au contraire. Il peut apporter toute son inspiration, toute sa fantaisie, tout son sens du jeu, mais il ne peut pas tout gérer. Il ne peut pas prendre des décisions financières, par exemple, ou les décisions concernant les investissements.
Ça me fait penser au film, tu sais, le film Big.
Oui.
Oui, tu fais des innovations parce que c'était l'enfant intérieur dans un corps d'adulte.
Alors, j'ai découvert que la manière la plus simple et la plus puissante pour produire cette expérience de guérison et d'intégration, c'est de connecter directement chacune des huit subpersonnalités avec la source, avec l'infini. Parce que s'il faut travailler à équilibrer, guérir chacun de leurs aspects de manière linéaire et à faire en sorte que chacune d'entre elles fonctionne en équilibre avec les autres et que la communication entre ces huit aspects soit fluide et continue, je crois que c'est un travail qui n'a pas de fin. Je crois que c'est un travail qui n'a pas de fin. Et donc, les connecter chacune directement à la source est une solution qui est beaucoup plus élégante, beaucoup plus rapide et dans mon expérience, beaucoup plus efficace. Et donc, c'est là-dessus que va porter cette série de quatre webinaires. Donc, chacun des webinaires sera consacré à une paire de subpersonnalités, c'est-à-dire la subpersonnalité dans l'axe vertical et sa contrepartie dans l'axe horizontal. Donc, par exemple, si on travaille sur le guerrier intérieur, on va travailler en même temps sur l'éclaireur, qui est sa contrepartie plus féminine de l'axe horizontal. Alors, on avait commencé la semaine passée à explorer la connexion entre ce sujet des subpersonnalités et les événements actuels en Grèce. Et il y a des choses très intéressantes qui ont été postées sur les pages Facebook d'Almine. Et notamment, je vais vous lire ici quelque chose que j'avais écrit moi-même. Donc, Joanne a récemment posté dans le groupe des Racines et des Ailes concernant la situation actuelle en Grèce et a demandé que tous ceux qui sont inspirés apportent leur contribution à la résolution de cette situation à travers le travail intérieur et le partage. Des éléments de compréhension ont été échangés qui tournaient principalement autour de la dissolution nécessaire des tyrannies intérieures. Comme je vais enseigner une série de quatre webinaires en juillet sur les subpersonnalités, c'est un prisme que j'utilise fréquemment en ce moment. Vanessa les avait mentionnés comme faisant partie du problème. Ce que je peux voir ici est que la Grèce a été surpolarisée, a suraccentué le rôle du sage. Comme Johan me l'a expliqué, en Grèce, tout le monde est un philosophe. Certains gouvernements grecs dans le passé ont joué le rôle d'un enfant insouciant et qui essaye d'attirer l'attention. C'est regarde-moi, regarde-moi. En empruntant des quantités d'argent invraisemblables pour le prestige éphémère d'organiser les Jeux Olympiques en Grèce il y a quelques années de ça. Vous êtes peut-être au courant, c'est un des aspects qui ont contribué à mettre la Grèce dans cette situation de banqueroute, c'est que des sommes exorbitantes ont été empruntées pour financer ces fameux Jeux Olympiques qui était considéré en Grèce comme la célébration du glorieux passé. Et c'est quasiment impossible pour un petit pays comme la Grèce de financer une charge pareille, parce que c'est absolument ruineux d'abriter les Jeux Olympiques. La manière très rude, très dure dont la Grèce a été traitée par certaines institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, est indicative du fonctionnement, ou plutôt du dysfonctionnement, de guerriers intérieurs dysfonctionnels. La manière dont l'argent est avancé à l'État grec en échange de toujours plus de mesures d'austérité montre un nourricier dysfonctionnel ou absent. Et certains pays européens, dans leur critique très la manière très j'ai raison, tu as tort, et c'est moi qui je suis voilà la manière très vertueuse, disons-le comme ça, la manière très vertueuse dont ils ont critiqué la Grèce perçue comme étant laxiste,
Oui, les Allemands, c'était
principalement,
particulièrement.
oui, principalement les Allemands, c'est un comportement qu'on a aussi vu très fort aux Pays-Bas, d'après ce que j'ai entendu, par exemple. Donc, ces pays-là se sont montrés sous le visage de sages et de nourriciers déformés. Parce que c'est une caractéristique d'un sage ou d'un nourricier déformé de se présenter comme celui qui juge et qui reproche.
Et disciplinaire.
Exactement. Et donc, il me semble que ce que montre cette situation, ce qu'elle met en évidence, c'est que l'Europe a besoin de mettre ses subpersonnalités en ordre et d'établir une connexion, une communication adéquate entre eux. Et c'est un des aspects sur lesquels on va aussi travailler dans ces webinaires parce que c'est ce qu'on fait toujours. C'est ce qu'on fait toujours en travaillant sur notre propre intérieur. On travaille pour le monde. On travaille pour les situations qui se manifestent dans le monde extérieur à l'échelle nationale, internationale, mondiale, parce que ces situations extérieures sont la manifestation de ce qui se passe en nous. Et donc tout ce qu'on guérit en nous débouche sur une harmonisation de ces situations extérieures. Alors Kostas, qui est grec, a lui aussi posté quelques réflexions, également en lien avec les subpersonnalités. Donc, voici ce qu'il nous a écrit. Je suis en train de changer de page. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Donc Costa s'écrit: Je sens que quelque chose de nouveau est en train de naître, lié à la situation actuelle, ce qui est en train de se passer. Il est très intéressant, en ce qui concerne la relation, le lien entre les différentes subpersonnalités et leurs points géographiques respectifs, que la Grèce semble être située en plein milieu. Au sud de la Grèce se trouve l'Afrique, le nourricier. À l'est, nous sommes voisins avec la Turquie et l'Asie, le sage. Au nord se trouve l'Europe, particulièrement l'Europe du Nord, le guerrier. Et à l'ouest se trouvent l'Espagne et l'Amérique, l'enfant, la découverte, l'exploration. En considérant que cet emplacement géographique spécifique n'est pas une coïncidence, tout ce qui est en train de se produire apparaît comme la pression exercée par les différents centres ou aspects du monde financier et des subpersonnalités qui sont en train de tirer et d'exercer une pression sur la région et sur les gens. La Grèce est suffisamment petite pour recevoir, travailler et transmuter la situation. Aussi, en termes de muscles et de taille des autres pays, c'est une expérience. C'est une expérience pour tester la possibilité d'appliquer un programme ou de mettre fin à une vieille matrice là où elle a commencé. Personnellement, je sens que la Grèce est un point de puissance et que toute cette énergie et cette vibration concentrée à travers une austérité continue extrême, résultant en une vibration négative depuis 5 ans maintenant, est quelque chose qui n'a pas à continuer indéfiniment, contrairement à ce que proposent les institutions financières et l'Europe. En fait, dans un rêve visionnaire, j'ai vu un verger d'orange, ce qui représente des perspectives optimistes, remplies d'espoir. Un verger d'oranger qui était directement lié au développement du nouveau gouvernement, en dépit du fait que je n'ai pas de lien d'intérêt particulier avec ce gouvernement. L'aspect prédominant qui est principalement discutée en Europe a été le programme et la perspective de l'Europe du Nord et du guerrier. La Grèce, à travers son nouveau gouvernement, au cours des derniers mois écoulés, a osé mettre sur la table et apporter dans les discussions financières des mots tels que soutenabilité et bénéfices mutuels, contrairement au système de au système parasite basé sur la dette, et avec pour seul résultat de se trouver confronté à un agenda où le guerrier, l'aspect guerrier est prédominant, un agenda de protection d'un système financier qui traite la terre et les gens comme des facteurs extérieurs. Facteur extérieur est un terme économique qui désigne tout ce qui ne rentre pas dans leurs équations. C'est un système artificiel qui a eu son utilité, mais étant donné que la lumière et la fréquence se sont accrues, se sont amplifiées, ont augmenté de manière gigantesque sur la Terre, le système ne peut plus subsister. Il ne peut plus soutenir et intégrer la pleine expression naturelle de l'ensemble de la vie. Les pays aussi ont à intégrer ces subpersonnalités. Et il me semble que tandis que la Grèce intègre les leçons et procède aux ajustements, il est tout aussi impératif que les autres pays en fassent autant. Particulièrement, il est important que les pays guerriers, les pays qui expriment l'aspect du guerrier, lâchent la domination de leur cerveau gauche logique et se connectent avec le véritable féminin, qui est le nourricier, et la joie de l'enfant, le nourricier mais aussi la femme sauvage, donc avec le nourricier et la joie de l'enfant qui respecte et apprend de la terre. C'est un temps pour les racines. Alors que le système financier révèle ses inadéquations, devenant de moins en moins fiable et de plus en plus incapable de représenter et de traduire nos contributions et nos efforts, nous pouvons nous connecter avec nos communautés et le pays, et nous pouvons collaborer les uns avec les autres pour créer les choses belle, véritable, qui révèle la magnificence et la perfection interconnectée de la vie. Nous pouvons apprendre tellement en laissant notre enfant intérieur jouer dans la nature, activant ainsi la sagesse de notre véritable sage intérieur. Les distorsions guerriers-nourriciers, je sens qu'elles peuvent être atteintes en travaillant sur la séparation apparente entre le masculin et le féminin, jusqu'à atteindre le point où le physique et où le manque ou l'avidité émotionnelle se transcendent en plénitude. Voilà, on doit s'arrêter ici parce que, encore une fois, on a bien rempli le temps qui nous est imparti, mais je trouve toutes ces réflexions vraiment très fascinantes, stimulantes et remplies d'espoir et de solutions. Et donc, je vous invite vivement à jeter un coup d'œil sur notre page Facebook où vous pouvez trouver le sigil qu'on vous avait promis la semaine passée pour se libérer des anciens contrats. Et des anciens liens, et aussi l'annonce des webinaires sur les subpersonnalités qui auront lieu au mois de juillet. Donc, d'ici là, comme on est arrivé plus qu'au terme de notre temps, je crois qu'on peut vous dire au revoir. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.